Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous, il est 19h30, temps universel. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 8 septembre 2017. Morgane Guiriac en direct de Washington, D.C. Au sommaire ce soir, manifestation de l'opposition au Togo. Nous aurons sur place notre correspondante Kayi Lawson. Les forces armées maliennes dans le collimateur de Human Rights Watch. Nous verrons pourquoi. L'ONU s'inquiète des signes avant-coureurs d'un génocide en Centrafrique. Nous ferons également le point sur l'ouragan Irma qui s'approche des États-Unis. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Dili Dico pour la Minute Éco. Mais d'abord le journal. Manifestation de l'opposition au Togo. Le gouvernement compte au moins 80 personnes interpellées à Lomé après 2 jours de protestations contre le pouvoir. L'opposition, elle, parle d'au moins 100 manifestants toujours en détention. On fait le point sur place avec Kayi Lawson.
Après la manifestation de l'opposition réprimée tard dans la nuit au cœur de la capitale, des jeunes de Bay, un quartier populaire réputé fief de l'opposition, ont repris avec le bras de fer dans la matinée. Barricades, pneus brûlés, jets de pierre avec la réplique de grenades lacrymogènes, c'est ainsi que s'est présentée la scène. À la mi-journée, les forces de l'ordre ont fait une descente au domicile du président du PNP, Atiadam Tikpi. Plusieurs arrestations dans la nuit du jeudi à vendredi dénoncent l'opposition. Après cette répression, l'opposition demande à la population de ne pas se démobiliser. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition.
Nous appelons les populations à la plus grande mobilisation parce que les jours que nous vivons, les moments que nous vivons sont des moments très importants pour l'avenir de notre pays. Donc la résistance continue.
La solidarité semble être de mise dans les rangs de l'opposition. Jean Kissi du comité d'action pour le renouveau, car...
Aujourd'hui, là, s'ils arrêtent une personne parmi nous, nous tous on sera là-bas où ils peuvent nous arrêter tous. Yeah. Voilà, ils n'ont qu'à construire assez de prisons. Peut-être pour tous les deux.
Pour la poursuite des revendications, le mot d'ordre de l'opposition est attendu pour le lundi prochain. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
L'ONG Human Rights Watch dénonce des meurtres extrajudiciaires et des actes de torture commis, selon elle, par les forces armées maliennes et burkinabées lors de leurs opérations contre les groupes armés islamistes dans le centre du Mali. On fait le point avec Yacouba Ouédraogo.
Human Rights Watch affirme dans son communiqué que les militaires maliens et burkinabés ont infligé des sévices, notamment des brûlures et autres brutalités, à des dizaines d'hommes accusés de soutenir les groupes armés islamistes. L'ONG de défense des droits humains basée à New York fait également état de 27 cas de disparition forcée. Human Rights Watch épingle aussi les groupes djihadistes. Selon elle, les islamistes armés ont procédé à des exécutions sommaires de civils et de militaires, détruit des écoles et recruté de force des enfants soldats. Ces violations se sont produites entre fin juin 2016 et juillet 2017 dans les régions de Mopti et de Ségou. Corinne Doufka de la division Afrique à Human Rights Watch estime que le gouvernement malien et burkinabé devrait mieux contrôler les unités qui ont perpétré ces exactions et poursuivre en justice les responsables. En juin, des militaires venus du Burkina Faso ont franchi la frontière commune et arrêté au Mali quelques 70 hommes en les accusant de soutenir le groupe djihadiste Ansarul Islam du prédicateur burkinabé Malam Diko.
Burkina Faso, Alassane Bala Sakande, un proche du président Rochmar Christian Kabore, a été élu à la tête de l'Assemblée nationale. Âgé de 48 ans, ce compagnon de longue date du président Kabore et président du groupe parlementaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès a recueilli 104 voix sur les 127 députés votants. Il remplace Salifou Diallo, décédé fin août. Côte d'Ivoire, des frondeurs du Front populaire ivoirien réfutent les accusations de complot lancées par le gouvernement contre 2 proches de l'ex-président. Annonçant jeudi les résultats des enquêtes sur une série d'attaques contre des postes de police et de gendarmerie perpétrées ces derniers mois, le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a qualifié d'instigateur d'un projet de déstabilisation Picasse Damana, vice-président du FPI, parti de M. Gbagbo, et Stéphane Kipré, gendre de l'ancien chef de l'État. Rappelons que le FPI a été fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Viol, tuerie, destruction, la province de la Basse-Kotto, en Centrafrique, subit une flambée de violence, d'après Amnesty International. Et les Nations Unies s'avèrent incapables d'enrayer ces violences, affirme l'ONG, qui pointe du doigt le groupe armé Union pour la paix en Centrafrique, UPC, du chef de guerre Ali Darras, proche des nomades Peuls et établi dans la région d'Alindao. Il est par ailleurs fait état de combats à Bria, dans l'est de la Centrafrique. Médecins sans frontières compte au moins un mort et 53 blessés dans les violences de jeudi. Nous reviendrons sur la situation à RCA en partie magazine. République démocratique du Congo, l'ONU dénonce des destructions massives et des souffrances humaines à très grande échelle dans le Kasaï, région du centre, en proie à des troubles depuis plus d'un an. Selon le HCR, 9 villages sur 10, près de Kamato, à la frontière avec l'Angola, ont été entièrement brûlés lors d'attaques menées par des groupes armés ou lors de combats entre ces groupes et les forces gouvernementales. Des groupes armés locaux ont systématiquement détruit ou pillé les centres de soins, des écoles ou d'autres bâtiments publics. Les enseignants et les soignants ont fui ou ont été tués, ajoute le HCR. Boko Haram a encore frappé dans le nord-est du Nigeria. Des habitants et des miliciens combattant le groupe islamiste, cité par l'AFP, affirment que 8 personnes ont été tuées lors d'attaques contre des villages agricoles mercredi et jeudi dans les environs de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno et fief historique des djihadistes. Les assaillants armés étaient à bord de pick-up et de motos. De nombreuses maisons ont été rasées. Des stocks de nourriture et de bétail ont été pillés. Des experts nigériens et cubains ont lancé à Niamey une campagne inédite de destruction de gîtes et larves de moustiques. À l'aide de canons pulvérisateurs montés sur des véhicules pick-up, des brigades de santé nigériennes et cubaines descendent jusque dans les bas-fonds de la ville pour bombarder les sites. Durant cette campagne de 20 jours, des traitements aériens sont prévus pour traiter les zones transformées en marécages par les inondations qui frappent Niamey depuis juin, expliquent les autorités.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Allez, on fait le point sur l'ouragan Irma. Dans les États américains de la Floride et de la Géorgie, les autorités ont ordonné l'évacuation d'au moins 1 million de personnes avant l'arrivée de l'ouragan, qui a déjà fait des dégâts et des morts dans la Caraïbe. Bagassikoura.
Le gouverneur de Floride, Rick Scott, a déclaré ce matin que tous les habitants de cet État du sud-est des États-Unis, où le puissant et dévastateur ouragan Irma est attendu dimanche matin, devraient se préparer à évacuer bientôt. La Floride compte plus de 20 millions d'habitants. À ce stade, plus d'un million de personnes sont visées par des ordres d'évacuation obligatoires dans cet État et dans l'État voisin de Géorgie, a indiqué Brock Long, patron de l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence. L'ouragan Irma, rétrogradé en catégorie 4 mais toujours dangereux, soufflait vendredi ses premières rafales sur l'est de Cuba et devrait se rapprocher de l'île dans la soirée, ont rapporté les autorités cubaines. Au même moment, l'ouragan José, qui se trouve dans l'Atlantique à 700 km à l'est des Petites Antilles, s'est renforcé en catégorie 4 avec des vents de 240 km/h, a indiqué vendredi le Centre américain des ouragans. C'est désormais un ouragan extrêmement dangereux, a prévenu le NHC. José se déplace dans le sillage de l'ouragan Irma, une immense dépression actuellement de catégorie 4 qui a déjà dévasté plusieurs îles des Caraïbes en étant catégorie 5 et menace Cuba, les Bahamas et une grande partie de la Floride.
C'est dans ce contexte que le Congrès américain a adopté à une large majorité une loi débloquant une aide d'urgence de 15,25 milliards de dollars pour les victimes de la tempête Harvey. Le plafond de la dette a été relevé jusqu'au 8 décembre. Un puissant séisme a frappé le sud du Mexique peu après minuit. On compte au moins 32 morts selon les autorités. On fait le point avec Eka Badou.
Le séisme d'une magnitude de 8,2 sur l'échelle de Richter est le plus puissant depuis celui de 1985 qui avait fait plus de 10 000 morts. C'est également le plus puissant des 100 dernières années dans le pays, a souligné le président mexicain Enrique Peña Nieto, qui a fait état de plusieurs maisons détruites dans l'état méridional de Chiapas. Des écoles et des hôpitaux ont aussi été touchés, a précisé de son côté le gouverneur de cet état. Par précaution, les autorités ont fermé les écoles dans 11 États. L'épicentre du séisme se situait à environ 100 km au large des côtes de l'État de Chiapas et la secousse a été ressentie jusqu'à Mexico. Alerté par les 8200 mégaphones déployés dans la capitale mexicaine, ces quelques 20 millions d'habitants sont descendus précipitamment dans la rue, parfois même en pyjama, provoquant des mouvements de panique. Le centre américain d'alerte au tsunami avait fait état d'une menace de tsunami dans plusieurs pays d'Amérique centrale, mais est revenu sur cette prévision.
Crise ukrainienne, un soldat a été tué par un bombardement dans l'Est rebelle pro-russe, rapportent les autorités à Kiev. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Dilidico, la Minute Éco.
Le Tchad annonce avoir obtenu des bailleurs de fonds réunis à Paris 20 milliards de dollars de promesses d'investissement pour financer son plan de développement 2017-2021. Les nombreux engagements des secteurs publics et privés attestent de l'intérêt des investisseurs pour les 300 projets mis en avant par le Tchad. L'Union européenne promet 925 millions d'euros, nettement plus que les 442 millions d'euros pour la période 2014-2020. Et la Banque mondiale compte doubler sa participation financière qui s'élevait à 214 millions au titre de 2017. Au Congo, le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, vient d'annoncer que les propriétaires terriens disposent d'un mois à compter du 7 septembre pour se faire enregistrer dans un fichier commun au risque de se voir infliger des sanctions sévères. Il a expliqué que le référencement des propriétaires terriens dans un fichier unique a pour but de mettre en place des mesures permettant de réorganiser ce secteur stratégique au Congo. L'Éthiopie et le Cameroun ont révisé leur convention du transport aérien lors d'une convention commune à Yaoundé, selon l'agence Ecofin. La réunion avait pour but de remodeler l'accord sur les services aériens bilatéraux, BASA, en y incluant de nouveaux dispositifs de sécurité aérienne, un système de location d'aéronefs et un partage de codes.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Afrobasket 2017 masculin, c'est parti.
Et oui, la 29e édition de l'Afrobasket masculin a débuté à Dakar et Tunis. Ces deux villes ont accepté d'accueillir la compétition après les désistements du Congo et de l'Angola. C'est la première fois que la Coupe d'Afrique des Nations de basketball est organisée conjointement par deux pays. Le Sénégal, pays co-organisateur, est logé dans le groupe D en compagnie de l'Égypte, du Mozambique et de l'Afrique du Sud. Dans le groupe B, on retrouve l'Angola, la Centrafrique, le Maroc et l'Ouganda. Tenant du titre, le Nigeria partage le groupe A avec la RDC, le Mali et la Côte d'Ivoire. La Tunisie, la Guinée, le Rwanda et le Cameroun forment le groupe C. Les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueront à Tunis. En ouverture cet après-midi, l'Égypte a battu le Cameroun 75-47. Le Mali domine la RDC 87-82. Le Rwanda bat la Guinée 75-55. À suivre Tunisie-Cameroun, Sénégal-Afrique du Sud et Nigeria-Côte d'Ivoire.
Le Cameroun connaît le nom de ses nouveaux dirigeants football.
Après moult tractations, c'est Maître Dieudonné Happy, avocat au barreau du Cameroun, qui a finalement été nommé président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football.
Et des matchs du championnat d'Espagne pourraient être délocalisés à l'étranger, en Chine ou aux États-Unis à partir de la saison prochaine.
Annonce du président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas, désireux de renforcer l'attractivité de sa compétition à l'international. Dans son édition de ce vendredi, le Financial Times évoque la possibilité, par exemple, que le FC Barcelone et le Real Madrid, locomotive de la Liga, soit concerné par le projet. On rappelle qu'en juillet, ces deux géants du football s'étaient affrontés à Miami pour le premier Classico hors d'Espagne depuis 1982 à l'occasion de la Coupe internationale des champions, un tournoi amical de pré-saison disputé aux États-Unis.
Tennis, place aux demi-finales de l'US Open.
Après avoir fait chuter Roger Federer en quart de finale, Juan Martín Del Potro défie un autre géant du tennis, Rafael Nadal. C'est tout à l'heure lors des demi-finales de l'US Open. Pour la première fois de leur carrière, l'Espagnol Pablo Carreño Busta et le Sud-Africain Kevin Anderson vont se rencontrer dans l'autre demi-finale.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission Les dossiers du jour. L'ONU s'inquiète des signes avant-coureurs d'un génocide en Centrafrique. Au moins 34 morts ont été dénombrés dans les combats entre les groupes armés de l'ex-coalition Séléka, de confession musulmane, et ceux des milices anti-Balaka, majoritairement chrétiens, depuis juillet dernier dans le sud-est du pays. Violences qui ont fait près d'un million de déplacés. Le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle prenne ses responsabilités. Joseph Bindoumi, joint par Félix et Passy Zimbro.
Vous ne pouvez pas imaginer qu'à Gambo, à Zemio, on massacre des personnes devant les chars des Nations Unies sans brosser. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il commence à y avoir un ras-le-bol qui permet aux autres qui se rendent compte qu'on est en train de les dissimer sous les yeux de la communauté internationale. Donc ils choisiront certainement d'un moment à l'autre entre mourir maintenant ou être égorgé plus tard. Il y a de fortes chances, effectivement, que nous puissions arriver à une situation tout à fait irréparable. Mais là, la communauté internationale est entièrement responsable.
L'on craint que cette crise ne perdure malgré la présence des casques bleus en Centrafrique. Bon, qu'est-ce que vous en dites?
C'est les casques bleus qui favorisent que cette guerre perdure. Vous savez que quand les casques bleus sont arrivés, nous avions seulement deux groupes qui se battaient. Nous savons qu'ils avaient les Séléka qui avaient fait la terreur et puis qui ont réveillé une partie de la population qui se sont formés sous forme d'anti-Balaka et qui ont contré les violences de Séléka. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transporté les autres pour les amener à Bambari, qui est devenu aujourd'hui à feu et à sang. Ils les ont transportés armes et bagages pour les amener à Karabandoro. Et ils ont pris par avion pour amener un délai. Et ils ont continué quand ils devaient dégager à l'Idaras de Bambari. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne l'ont pas désarmé. Ils ont seulement dit de quitter la ville et puis de continuer vers Alindao, vers les autres coins qui sont aujourd'hui en feu et à sang. Ce qu'il faut maintenant craindre, c'est que la grande majorité du peuple qui comprend qu'elle est victime d'un complot, il va y avoir des sursauts à tout moment. Ils avaient entendu il n'y a pas longtemps que les anti-Balaka ont dit qu'ils ont gardé le calme pendant tout le temps et que maintenant ils savent qu'on est en train de tuer des Centrafricains sans que la communauté internationale bronche. Et à partir de ce moment-là, ils vont prendre leurs responsabilités pour mourir avec leur peuple. Alors, vous comprenez que si c'est ça, c'est le génocide.
Mais maintenant, Monsieur le Président, quel appel lancez-vous à la communauté internationale face à cette crise?
Aujourd'hui, plus personne n'a aucun appel à lancer. On a demandé au Conseil de sécurité, au comité des sanctions, pour leur dire qu'il n'est pas juste que tout le monde, eux, avec les radars, les satellites, ils voient bien des djihadistes partis du Soudan, du Darfour ou du Ténéré, du Tchad, pour venir en République centrafricaine, semer le désordre. Il y avait deux groupes qui se battaient au départ. Et aujourd'hui, on a 14 groupes, peut-être bientôt 15, qui rentrent sous leurs yeux. Ils disent qu'ils sont venus pour protéger les populations civiles. Depuis leur arrivée, le nombre de morts s'est multiplié énormément. Donc, vous comprenez que tous les prétextes sont faits pour que ce n'est même pas la République centrafricaine, c'est pour que l'Afrique centrale s'embrase. Parce que le combat qui va avoir lieu en République centrafricaine, le Tchad sera touché. La République démocratique du Congo, avec qui nous avons plus de 2000 km de frontière, va réagir. Le Cameroun va réagir pour protéger sa frontière. Donc, ce sera vraiment la sous-région d'Afrique centrale qui sera à feu et à sang.
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
La conférence des donateurs pour le plan national de développement du Tchad s'est clôturée ce vendredi à Paris. Les autorités de N'Djamena disent avoir obtenu des engagements pour plus de 10 000 milliards de francs CFA. L'Union européenne a promis 925 millions d'euros et la Banque mondiale plus de 400 millions. Nathalie Barge a joint le docteur Reoutag Ilro Gaudande de l'université de N'Djamena.
Dans une grande communauté comme celle-là, ce n'est pas tout le monde qui peut partager le même avis. Mais il y a aussi des pessimistes qui considèrent que, malgré le bouleversement que le pays a connu, même si on doit engranger des ressources financières, est-ce que ça peut servir à quelque chose? Moi, je crois qu'il vaut mieux oser que de ne pas oser.
Alors, est-ce que vous pensez, par exemple, vous, professeur, qu'au plan de l'éducation, cette conférence de donateurs pourrait apporter quelque chose?
Si ce forum peut rapporter assez de ressources, ça permettrait de juguler un peu la situation parce que nous avons des bacheliers de deux sessions déjà qui sont restés à la maison, qui ne peuvent pas aller à l'université pour étudier. Ça constitue un grand problème pour nous autres enseignants chercheurs. Si cet argent est donné, nous aurions aimé quand même que la communauté internationale puisse mettre en place une commission qui puisse travailler avec le gouvernement tchadien de manière à bien gérer cet argent-là. C'est ça l'inquiétude de beaucoup de gens qui trouvent que est-ce que ça peut aider à quelque chose. Mais moi, je crois quand même que si on met des hommes intègres en bonne position, ça peut aider à juguler le problème.
Mais vous, au niveau de l'éducation nationale toujours, est-ce que vous avez demandé par exemple des garanties au gouvernement justement par rapport à ces grosses sommes hein, qui vont être allouées donc notamment à plusieurs budgets du gouvernement, on ne sait pas lesquels encore?
Oui, ben les garanties c'est quoi madame? Les garanties pour nous autres citoyens lambda, aujourd'hui l'éducation c'est le clé de savoir si l'État trouve que par le développement l'éducation est le vecteur le plus approprié. Je crois qu'il appartient au gouvernement la somme qui sera allouée pour l'éducation nationale qu'on mette en place une commission qui va bien gérer et rendre compte aussi aux partenaires parce que les bailleurs ne vont pas donner de l'argent et qu'ils ne pas faire le suivi. Ça serait important que les bailleurs aussi fassent le suivi de ce qui se passera à Paris.
Professeur, est-ce que vous avez espoir? Est-ce que vous pensez que ça va se passer mieux que par le passé?
Moi, je crois que l'espoir fait vivre parce que si on n'a pas d'espoir, on n'a plus d'avenir. Et donc, nous avons toujours espoir pour qu'aujourd'hui, le Tchad sorte quand même un peu de cette difficulté qu'on est en train de vivre en ce moment.
Voilà, c'était Reoutag Ilro Gaudande, professeur de littérature à N'Djamena. Nous avons tenté de joindre des membres de la délégation gouvernementale tchadienne à Paris, mais en vain.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Kenya, la commission électorale du pays est en crise depuis l'invalidation de la présidentielle du 8 août dernier. Le président de l'IEBC a sommé son directeur exécutif de s'expliquer sur les défaillances de cette élection. Cette commission va-t-elle pouvoir organiser le nouveau scrutin à la date butoir du 17 octobre? Jacques Aristide a joint Ibrahima Kané, directeur de plaidoyer de l'Open Society Foundation, auprès de l'Union africaine.
Ce sera certainement très difficile parce que d'abord, il y a un certain nombre de questions que la commission doit régler, mais qui dépendent de l'obtention par la commission de la copie de la décision qui n'est pas encore disponible. Et puis deuxièmement, la commission a voulu anticiper en essayant de se réformer un peu pour préparer l'élection. Mais cette anticipation pose beaucoup de problèmes parce que le président de la commission a critiqué le directeur exécutif, a essayé de mettre en place une équipe. Mais on vient d'apprendre aujourd'hui que deux membres de la nouvelle équipe ont refusé de participer aux activités proposées. Et donc, cette crise qui couvre au niveau de la commission risque vraiment de plomber tout le travail qui doit être mené d'ici le 17 octobre. Et je doute fort que le 17 octobre puisse être la date des élections.
Justement, pour l'heure, les questions au cœur des plaintes de l'opposition liées au système d'identification biométrique, à la transmission des résultats et au décompte des voix demeurent en suspens. Que va-t-il donc se passer d'après vous?
La presse a pu obtenir une lettre interne de la commission, mais qui donne des indications très précieuses sur les problèmes que la commission elle-même a rencontrés pendant l'élection. Les informations qui sont contenues dans cette lettre accréditent bien la thèse d'une très, très, très mauvaise préparation de l'élection et d'une très mauvaise conduite au niveau de la commission pendant la transmission des informations. Je pense que ces éléments-là qui sont contenus dans cette lettre peuvent déjà aider la commission, si elle est bien sûr fonctionnelle, à régler un certain nombre de problèmes qui sont à la fois techniques et pratiques. Techniques parce que le matériel de la commission, en vérité, n'a pas fonctionné le jour de l'élection pour diverses raisons. Deuxièmement, matériel parce que des actes qui étaient prévus par la loi et qui n'ont pas été accomplis. Donc, de ce point de vue, la commission peut vraiment commencer à faire ce travail. Mais il se trouve que la commission ne sait pas avec exactitude ce qu'on lui reproche. Et c'est ça qui fait que même si la commission était aujourd'hui en place pour commencer le travail, il lui serait difficile de le faire à cause de la non-disponibilité de la décision de la Cour qui certainement sera publiée la semaine prochaine ou la semaine d'après. On ne sait pas encore.
Pensez-vous qu'on pourra juger de la portée de ce verdict qu'au terme de ce nouveau scrutin?
Ce qui est ici mis en exergue, c'est le courage des juges, le message qu'ils lancent à tous les juges africains pour leur demander que lorsqu'ils sont sont convaincus que les lois du pays n'ont pas été appliquées de manière adéquate, qu'il leur faut prendre la décision idoine. Ce qu'ils ont fait, me semble-t-il, peut vraiment aider à asseoir les bases d'une démocratie solide au Kenya. L'élection prochaine se passera inévitablement de manière très différente.
Ibrahima Kané de l'ONG panafricaine Open Society Foundations, joint à l'île Maurice. Le Hajj 2017 est terminé. Pour la quasi-totalité des pèlerins venus de partout dans le monde, l'heure est aux préparatifs du retour au pays. Et ce vendredi est l'ultime occasion pour eux de faire une dernière prière dans la mosquée sainte. Siriki Baro à la Mecque pour VOA Afrique.
Il n'est que 9h ce matin à la Mecque. Mais ils sont nombreux, déjà, ces pèlerins à se bousculer pour se rendre à la mosquée Haram pour y accomplir leur dernière prière de vendredi avant le retour au pays. El Hadj Moukinou Salami est béninois. Pour son dernier vendredi en Terre Sainte, il adopte une attitude de reconnaissance et de gratitude envers Dieu.
Le sentiment de joie, nous remercions Allah, Subhanahu wa Ta'ala, pour tout ce qu'il nous a fait cette année. Et nous remercions les organisateurs du Hajj en Arabie Saoudite qui ont pu faire l'organisation de telle manière que ça s'est bien passé cette année.
Une fois la prière accomplie, la joie et la fierté sont au rendez-vous. En atteste les propos de Mamadou Abo, un ressortissant camerounais.
On vient de prier la prière du vendredi, un grand imam qui a fait un bon khutba sur les principes du Hajj. Je compte rester dans la dynamique du khutba de l'imam de ce jour. Après, chez moi, je sensibiliserai tout le monde après ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vécu ici à la Mecque. Et je compte revenir plusieurs fois pour le Hajj, Inch'Allah.
Le Hajj demande de l'endurance physique, surtout avec les conditions climatiques particulièrement difficiles de l'Arabie Saoudite. Amadou Tierno Silla, venu de la Guinée-Conakry, est malade. Mais aujourd'hui, il ne s'est pas fait prier pour se rendre dans le premier lieu saint de l'islam.
On n'est pas venu pour chercher le football ou autre chose ou la politique. On est venu chercher pour le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a demandé. Mais je suis malade là où je suis. Mais alhamdoulilah rabbil alamin, je me suis bâti pour venir faire la dernière prière. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala.
Après cette édition 2017 qui s'est assez bien déroulée dans l'ensemble, les autorités saoudiennes préparent déjà le Hajj 2018. Les travaux pour l'agrandissement de la mosquée vont se poursuivre, ce qui permettra d'accueillir encore plus de pèlerins les années à venir. Siriki Baro, depuis la Mecque, pour VOA Afrique.
Voilà, c'était Siriki Baro, son reportage à la Mecque pour VOA Afrique.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde de Michel Joseph, Joe Gill à la console, présentation Morgane Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.